Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture.
C'était à Jacques Lacan qu'était laissé pour finir la parole dans le cinquième et dernier volet de la série que lui consacrait Les Nuits Magnétiques en 1981, quelques semaines après sa mort. La parole, à travers une déclaration qu'il faisait dans une émission de Georges Charbonnier en 1966, alors que paraissaient ses écrits. Dans l'émission qui va suivre, nous allons entendre Jacques Lacan y parler de l'inconscient et éclaircir le sens de cette formule « L'inconscient, c'est le discours de l'autre avec un grand A ». Une intervention dans laquelle il affirmait avec force ce dont tout le monde pourrait aujourd'hui se laisser convaincre. L'homme croit, il fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Dans ce cinquième volet de la série, que Laure Adler avait choisi de consacrer au séminaire du docteur Lacan, avec les témoignages du psychanalyste Bernard Thys et de celui qui se sera chargé de l'édition de ces séminaires, Jacques-Alain Miller, était posée la question de l'avenir de la psychanalyse après Lacan. L'avenir de 1966, nous l'avons suffisamment entamé pour avoir une idée de ce qu'est devenue la psychanalyse après lui et pour savoir ce que nous avons fait de l'œuvre de Jacques Lacan. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, cinquième et dernière émission, les séminaires de Lacan, diffusé le 9 octobre 1981 sur France Culture.
D'abord, c'était Sainte-Anne, ensuite c'était Normale Sup, et puis jusqu'au 15 avril 1980, c'était la fac de droit, tout ça à Paris, et ça s'appelait les séminaires. Aujourd'hui donc, dernier rendez-vous avec Jacques Lacan, et d'abord 27 ans de séminaire.
L'analyse, ça se vend bien, oui. Je parle des publications, ça n'a absolument rien à faire avec l'analyse. On peut entasser... Autant qu'on voudra de ces colonnes, de ces piles, de ces entassements de production diversement littéraire, c'est ailleurs que se fait le travail, et c'est dans la pratique analytique, pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt, parce qu'il est là tout à fait essentiel. Ce que j'essaie de former à la lumière d'une expérience suivie dans le quotidien, c'est une école, celle que j'ai intitulée de freudienne comme telle, c'est une école pour autant qu'elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.
Que les séminaires de Lacan étaient difficiles, mais ils étaient difficiles parce que il utilisait des concepts qu'il avait déjà définis dans les années précédentes. C'est comme une pyramide. Vous ne pouvez pas poser les dernières pierres en haut si vous n'avez pas construit des bases solides. Or, chaque année de ces séminaires, c'était les bases de quelque chose de nouveau qui allait lui permettre de redévelopper des concepts. Alors, si on arrivait en cours de séminaire, on n'y comprenait rien. Mais assister à toute l'élaboration de ces séminaires au cours de toute sa vie, c'est évidemment quelque chose de passionnant. Mais c'était aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus facile.
Je propose simplement ceci. Une heure, je n'aurai à commenter que la prochaine fois. Et ceci. Si, comme vous venez de le voir, c'est une figure tétraédrique qu'il s'agit. Tétraédrique en tant qu'elle est produite par la bascule de deux des rondes ficelles. Et on peut dire que, quel qu'il soit, nous revenons à la figure Lévogyre pour la spécifier, nous y revenons, quel que soit celui des deux, qui a été rabattu.
Ça, c'est un extrait d'un des séminaires de Jacques Lacan du 24 mai 1974. À l'époque, il parlait des nœuds borroméens. Vous avez sans doute entendu les bruits de craie. Lacan tournait le dos à son public et faisait ses figures sur un tableau noir. À propos de ces séminaires, Lacan disait lui-même qu'il les appelait la cohue et qu'il n'en ignorait pas les malentendus. Il ne cachait pas non plus qu'une dizaine d'auditeurs étaient en mesure de suivre ces séminaires. Il savait, je cite ses propres termes, les sornettes adorantes ou vachardes que lui valaient ce qu'il nommait ses cérémonies. Et si malgré lui il s'imposait cette lourde charge, c'est qu'il se sentait engagé, toujours un mot de lui, vis-à-vis de son public d'origine, c'est-à-dire des psychanalystes en rupture d'institution, et qu'il manquait de critères pour écarter les autres. Et si ce phénomène avait quelque chose d'absurde pour lui, de risible, c'est qu'il révélait de troubles ou de besoin d'être pris en charge, tout ça, ça ne lui paraissait nullement comique. Ces séminaires, c'était bien évidemment de la parole, et cette parole, c'est devenu de l'écrit. Et ça s'intitule Séminaire, c'est publié sous la direction de Jacques-Alain Miller aux éditions du Seuil. Et j'ai évidemment demandé à Jacques-Alain Miller comment s'était passée cette transcription de la parole à du papier écrit.
Il existe, ça circule d'ailleurs sous forme dite pirate, des sténographies prises à l'époque. Et c'est à partir de ces sténographies que j'ai à rédiger le texte qui paraît. Lacan a eu là, au fond, si on prend les choses par ce biais, un comportement tout à fait singulier, puisque voilà ce qui était une œuvre à chaque fois qui dormait, si on veut, dans son placard, qui a dormi longtemps. Les écrits qu'il a donnés sont en quelque sorte des prélevés sur ces séminaires. En même temps, il les déplace. Ils sont à cheval souvent sur deux séminaires. Mais je pense que beaucoup se sont essayés avant moi à donner une forme écrite à ces séminaires. Ça n'a pas manqué. Au fond, il a toujours en définitive refusé que ça paraisse. Il se trouve que le moment où je lui ai dit un jour, je pensais que pour tel séminaire, il fallait en fait conserver presque tout, de ne pas essayer de donner à ces volumes une autre forme que cette scansion par séance, ne pas gommer les discussions, ne pas gommer les retours, les divergences de sa propre théorie d'une séance sur l'autre. Il lui arrive de dire autre chose parce qu'il a changé entre-temps, non pas d'avis, mais il a serré de plus près les choses, et qu'il ne s'agissait pas d'homogénéiser le texte, mais au contraire de le respecter, de faire de chaque séance un chapitre, etc. Et que j'avais évoqué ça devant lui, et il m'a dit « prouvez-le », ce qui était bien trouvé, enfin, pour moi, à ce moment-là. Et je lui ai apporté, un mois après, une version du séminaire des quatre concepts fondamentaux, et je lui ai laissé, et un mois après, il m'a encouragé à terminer, enfin, parfaire le travail.
Sans avoir rien modifié.
Sans avoir rien modifié, c'est moi qui étais plutôt à le questionner sur des points que je trouvais délicats. Et il faut bien dire que sur certains points, qui c'était à l'époque quelque chose comme 9 ou 10 ans après le moment où il avait prononcé ce séminaire, pour certains points, on ne pouvait pas trancher, je dirais, pas plus lui que moi, sur ce qui était à ce moment-là même son idée précise. Alors, j'ai comme ça fait quelques séminaires, en lui soumettant chaque fois et le texte, et puis une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de questions sur lesquelles, effectivement, nous pouvions avoir l'occasion de travailler. Et actuellement, doit paraître le séminaire des psychoses, celui où il construit d'une façon nouvelle, parce qu'il en avait déjà parlé avant, mais construit d'une façon nouvelle le nom du père. Et je crois que c'est un, par exemple, un séminaire où il n'y a pas cette difficulté de premier abord qu'on rencontre, paraît-il, dans les écrits. On a au contraire une confrontation suivie avec le texte des mémoires du président Schreber, déjà commenté par Freud. C'est vraiment un grand exposé, je dirais, rationnel, de bout en bout. Et c'est moi, enfin, ce style-là que je trouve dans tous les séminaires de Lacan. Alors, il est certain que j'essaye de respecter, je dirais même, mes propres incompréhensions à l'occasion dans ce texte. Je ne prends pas ce que j'en comprends comme la mesure des choses. Maintenant, c'était le souhait du docteur Lacan que ce soit des livres qui soient lisibles. Ils ne sont donc pas chargés de notes ou d'introductions. Ce sont des livres actuels quand ils paraissent. Et c'est là qu'on voit ce que c'est qu'un précurseur, puisque voilà des séminaires qui datent de 1955-56. Et je crois qu'il peut encore aujourd'hui paraître comme un livre d'aujourd'hui. On peut sans doute, on aurait des difficultés à dire ça d'autres travaux intellectuels. Et je dirais que ce qui est sensible, en fait, c'est, je dirais, la simplicité foncière de sa pensée, en tout cas le désir d'arriver à cette simplicité, simplicité extrême. Et ce qui déroute, c'est finalement cet extrémisme-là.
Et quand vous ne compreniez pas ce que disait Lacan de temps en temps, ça a bien dû vous arriver. Est-ce que vous pouviez en parler avec lui? Ou est-ce que votre incompréhension sur certains plans ne vous inquiétait pas et vous vous disiez qu'il fallait continuer à suivre son œuvre?
Écoutez, en tout cas pour les séminaires, vous avez des moments où la parole n'a pas été enregistrée. Vous avez des moments où la phrase elle-même se brouille, sa syntaxe se brouille. Alors, il y a là des difficultés intrinsèques. À la fois, je pense qu'il faut donner un texte, encore une fois, qui puisse être lu. Donc, il n'y a pas, il ne figure pas là des coupures. Il faut pratiquer précisément des sutures sur ce texte. Et disons que bon, cette méthode, cette façon de faire, je l'ai déjà accompli sur 4 ou 5 séminaires, avec, je dirais, sous le regard de Lacan, donc j'ai, je pense, une idée convenable de ce qui avait son agrément. Maintenant, après ce prochain séminaire, aucun n'est... J'en ai mis plusieurs en train, j'ai pu parler de plusieurs avec lui, mais aucun n'est tout à fait achevé. Évidemment, ça ne sera plus jamais comme avant. Je veux dire que je prendrai sur moi de faire ce qu'il faut faire pour que ces séminaires soient des livres.
Bien. Donc, vérifiez ceci à l'occasion, enfin, en faisant des petites manipulations comme celle que j'ai si bien ratée le bambou, et vous verrez en somme ceci. Qu'à se maintenir dans le nœud lévogique, nous obtenons ce métallique spécifié dans les traits, puisque vous voyez comment une chose se passe ici. Vous pouvez faire reconstituer ici par exemple, vous savez, apprendre la.
Vingt-sept ans de parole, 20 séminaires qui sortiront de façon non chronologique. 4 séminaires sont déjà sortis. Le prochain sortira prochainement aux éditions du Seuil. Mais après donc des écrits de Jacques Lacan, après ces séminaires sous forme d'écrits, que peut-on, on est bien obligé de se poser la question de savoir que va devenir la psychanalyse en France et même dans le monde entier, Bernard Thys.
Alors, qu'est-ce qu'ils en feront de la psychanalyse? C'est la question que Freud se posait avant de mourir. C'est la question que l'on peut se poser maintenant. Ce qui est certain maintenant, c'est que le discours analytique est venu répondre au discours de l'hystérique, qui lui-même répondait au discours du maître. Problème de l'analyse, est-ce qu'elle va devenir l'objet d'un discours universitaire où le savoir est mis en position dominante, au-dessus d'un signifiant impératif mis en place de vérité. Hein ? Ça serait la psychanalyse objet d'un discours. Ou est-ce que le discours analytique lui-même continuera à fonctionner ? Il me semble qu'il fonctionne de plus en plus. Et il y a de plus en plus de personnes en analyse. Ce qui l'angoisse de bon nombre d'analystes, c'est nous formons des analystes, mais nous en formons trop. Il faudrait une sorte de numerus clausus. Il faudrait être malthusien. Autrement, nous allons détruire notre gagne-pain, en quelque sorte. Mais si l'analyse a quelque chose à dire, si l'analyse a à répondre au discours scientifique, qui, lui, considère les corps comme des corps biologiques, et le scientifique s'adresse au corps pour produire du savoir. Le discours analytique, lui, est tout à fait différent. Il s'adresse à un sujet pour qu'il produise les signifiants qu'il déterminait à son insu. Quels seront, à long terme, dans une civilisation, les effets du discours analytique? Nous voyons bien que dans les hôpitaux, par exemple, dans un service, dans un domaine que je connais bien, le discours analytique est là pour faire reconnaître que l'être humain qui naît n'est pas sourd, aveugle, insensible, mais que c'est un sujet incapable de parler peut-être, mais qui comprend parfaitement la parole avec qui on entre en relation. Alors je ne sais pas vers quelle humanisation nouvelle nous allons avec le discours analytique. Moi, je ne peux pas jouer les prophètes.
Mais est-ce que vous pensez que justement la cassure et la révolution qu'a opéré Lacan dans tout le champ analytique va petit à petit disparaître au profit d'autres écoles analytiques en France, c'est-à-dire au profit d'une sorte de fidélité à la lettre de Freud, de mécanisation, de lettres qu'on répète?
On pourrait penser que le danger, ce serait de faire du perroquetage de Lacan. Hein, c'est-à-dire apprendre par cœur les séminaires et puis réciter des phrases qui tiendraient lieu de démonstrations logiques. Hein. Il ne semble pas que ce soit vers, dans cette direction que nous allions. Hein, actuellement, dans le cadre de l'école de la cause, il semble beaucoup plus que c'est un intérêt pour la clinique. Hein, mais une clinique qui ne soit pas comme ça, une clinique de n'importe quoi, mais une clinique avec un certain nombre de repères de compréhension, où on ne se dépêche pas de plaquer du sens et d'interpréter ce que ça veut dire. Hein. C'est le danger, c'est d'avoir une clé des songes comme ça, et puis de se précipiter et de donner du sens. En réalité, l'analyse doit se laisser opérer par ce balayage des sens possibles, hein, par toutes les possibilités de l'ouverture de la structure. Hein. Alors ça, c'est pas très facile. Hein. On préfère en général dire « voilà ce que ça signifie », plutôt que de se dire « je pense ça, mais réflexion faite, je pense ça », et puis être en contradiction avec ce qu'on pensait quelques minutes plus tôt, et puis continuer à travailler. Là, quand on disait bien au nœud borroméen, au nœud, il faut se rompre, hein, il faut travailler. Je me souviens de Lacan, un jour, disant à un de ses analysants qui partait, « Mais malheureux, si vous coupez, si vous tranchez le nœud gordien, vous n'en connaîtrez jamais la structure !» Hein, incontestablement, c'est pas facile, hein, de se confronter au nœud, à tout ce nouage de l'imaginaire, du réel et du symbolique, à toute cette théorisation.
Alors, un petit conseil aussi qui est un peu difficile. Il nous reste maintenant donc les textes de Lacan, bien sûr les écrits, l'énorme volume des écrits, et puis donc la plupart des séminaires qui ne sont pas encore tous publiés mais qui vont l'être prochainement. Oui. Quelques séries aussi, des petits textes, notamment le texte télévision. Oui. Pour les gens qui ont été rebutés par Lacan, par le côté difficile, ou pour des gens qui ne l'auraient jamais lu, vous conseilleriez, vous, de lire quoi, de commencer par quoi?
Par ce qu'ils veulent. Quand on est passionné, hein, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de comprendre. Donc si quelqu'un est passionné par les derniers séminaires de Lacan, qu'il fonce. Mais je trouverais plus logique de procéder année par année, voir se construire les concepts, les graphes, hein, et toute cette structure, tout cet enseignement que Lacan a donné. Le malheur, c'est que nous n'avons pas encore, c'est pas encore à la disposition des analystes, l'ensemble de tous les séminaires de Lacan. J'espère que Jacques-Alain Miller va s'y mettre rapidement, hein, de façon à ce que nous ayons un instrument de travail indispensable. Mais en soi, ça n'empêchera pas. Ça ne sera pas suffisant. L'essentiel, c'est de travailler.
Les tensions actuellement après la mort de Jacques Lacan sont très très fortes à l'intérieur du mouvement psychanalytique en France. On peut même parler de haine, et j'ai demandé à Jacques-Alain Miller jusqu'à quel point cette haine va aller et si elle allait durer.
La haine, effectivement, se donne libre cours. Je ne sais pas si ça va continuer sur ce registre. Mais en un sens, ça ne concerne malgré tout, dans cette intensité, je crois que le court terme. Pour beaucoup, évidemment, il y a sans doute un soulagement, disons-le, comme les choses sont. Je crois qu'il néglige ceci, que Lacan sera beaucoup plus présent encore, comme il le prévoyait dans sa mort, que lorsque sa présence physique était là pour soutenir, mais aussi parfois oblitérer son enseignement. Donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un mouvement de « et moi » de la part d'un certain nombre d'analystes, disons, de sa génération, ou sinon de ceux qui depuis longtemps attendaient un petit coin de soleil, maintenant qu'il... Alors, nous verrons à cet égard... Je ne crois pas qu'il est là, on prenne le relais comme dans cette théorie marxiste-léniniste où on voit Marx passer le témoin à Lénine, qui lui-même le passe à Staline ou à Mao. Après tout, qui pouvait, était-ce si prévisible que ce soit en France, au moins à notre gré, que ce retour affreux des lieux, je ne crois pas, et de la part d'un psychiatre, après tout, formé d'une façon très traditionnelle, élevé dans une... élevé au collège Stanislas, pour tout dire, ce n'était pas prévisible. Donc là, je crois que Lacan n'en avait pas une idée si claire de cet avenir. Il a parfois été très optimiste sur l'avenir de la psychanalyse, comme complément des effets ravageurs du discours de la science. À d'autres moments, au contraire... prophétisant une fin prochaine de ce coup-là. Je crois qu'à cet égard, faut se garder de faire des prophéties, mais j'aurais plutôt tendance, moi, à choisir la veine optimiste, tant que le discours de la science tient le coup, et il le tient bien, tant que l'hystérie ne disparaît pas, même sous des formes qui ne sont plus aussi spectaculaires que jadis. Je crois que la psychanalyse, si elle conserve ce que Lacan appelait sa virulence, a toutes ses chances.
Nous avons passé tout à l'heure un extrait du séminaire de Jacques Lacan qui faisait 1 minute 58, un extrait du séminaire du 24 mai 1974, 1 minute 58 qui n'avait aucunement la prétention de pouvoir résumer la théorie de Jacques Lacan, mais simplement de pouvoir donner un peu aux auditeurs l'atmosphère dans laquelle travaillait Jacques Lacan, dans laquelle il s'adressait à ses auditeurs. Et nous laissons évidemment la fin de cette émission à Jacques Lacan lui-même, qui, au cours d'une interview donnée à Georges Charbonnier le 28 novembre 1966, résumait un tout petit bout de sa théorie, là aussi malheureusement de façon arbitraire.
L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme. Nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Ceci par l'intermédiaire du désir, où ses parents l'accueillent comme un objet qu'il le veuille ou pas privilégier. Ce que le moindre éveil clinique permet d'apercevoir dans ses conséquences, incalculable jusqu'ici, mais sensible dans tous les êtres, et ce qu'ignore les patouillages du religieux comme du médecin concernant la régulation des naissances. Or, le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque, et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choit comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique à partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique, ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considérée partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On a entendu qu'à « humain » et à « homme » nous mettons des guillemets. Pour autant que, dans ce que représentent ces termes, est déjà présent l'effet du langage et qu'ils doivent donc rester en suspens tant que la science nécessitée par l'effet de l'inconscient ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes. Ainsi, le fondement de l'histoire marxiste, à savoir l'aliénation que la production en tant que telle introduit dans le sujet, trouve-t-il ici un supplément qui n'est pas moins matérialiste, au sens où nul, pure et simple, intentionnalité, nulle plus ou moins bonne intention, ne peut, des effets de l'inconscient, surmonter les tours.
Voilà, une émission de radio, mais ça s'arrête à un moment. On aurait pu continuer, j'aurais souhaité qu'on continue à entendre Jacques Lacan. J'aurais voulu aussi vous donner une bibliographie, malheureusement nous n'avons pas le temps. Donc lisez les écrits et les séminaires de Jacques Lacan qui sont publiés au Champ Freudien aux éditions du Seuil.
Venez d'entendre les séminaires de Lacan, le cinquième et dernier temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de turbulence des Nuits magnétiques. Première diffusion le 9 octobre 1981 sur France Culture.